Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Wiki Café de juin. Donc, les Wiki Cafés, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est un événement qui a été mis en place dans le cadre du partenariat entre Wikimedia France et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui se concrétise principalement par trois résidences Wikimedia par an. Donc là, on a encore quatre, hein, puisque Hugo est encore parmi nous, on en profite. Et donc, et ben, ces résidences, elles sont hébergées par les URFIST. Donc, les URFIST, si vous ne connaissez pas, c'est le centre de formation du personnel du supérieur en France. Les résidences se sont décidées de 1 an. Donc, pour ma part, je suis jusqu'à avril 2025. Et l'objectif d'une résidence, c'est de former tout le personnel universitaire à Wikimedia, avec comme objectif, hein, final de se rapprocher un peu des deux mondes, hein, que le monde de la recherche et le monde de Wikipédia se connaissent mieux. Et donc, bah, ce qu'on a choisi de faire ici, c'est de faire intervenir bah, des personnes qui, au sein des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche, eh bien, travaillent avec Wikipédia, utilisent Wikipédia, Wikidata, tous les projets Wikidata. Et c'est le cas de notre invitée du jour, donc Lise Vaudor, qui nous fait la gentillesse d'intervenir. Donc Lise Vaudor, vous êtes docteur en biostatistique, et c'est durant votre thèse que vous avez notamment travaillé avec R. C'était un peu votre outil sur lequel vous avez pas mal bossé, même si ce n'était pas votre spécialité du début, puisque votre thèse, elle était sur les échantillons de petite taille en écologie.
Tout à
Mais par
fait.
contre, c'est, si je me souviens bien, lors des journées R de Avignon, vous aviez dit que c'était quand même R qui vous avait permis de vous permettre d'avoir votre poste au CNRS comme ingénieur de recherche. Et c'est ce que vous faites depuis quelques années déjà. Et je vous ai entendu parler du package Glitter qui permet bah, de faciliter un petit peu l'utilisation de Wikidata et des données, de l'énorme base de données de Wikidata auprès des chercheurs. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut absolument qu'elle vienne nous faire une présentation de ce qu'elle peut en faire. Bah, écoute, je te laisse la parole et j'ai hâte de t'écouter.
Eh ben merci Delphine pour cette introduction. Je vois que tu as des fiches sur ma personne. Je suis un peu intimidée. Donc, merci déjà de m'avoir sollicité pour parler de Glitter. Glitter, c'est un package que on a développé sur quelques années en fait et qui vise à faciliter l'usage de Wikidata. Alors, surtout en recherche, du fait de ma position d'ingénieur dans un labo de recherche. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a pu se servir de ce package pour étudier les inondations. Et donc, on s'en est servi pour recueillir des Wikidata sur le sujet et par extension, des données Wikipédia qui nous ont servi à enrichir en fait, la base de données et le cas d'études qu'on a mené sur les inondations. Alors, il faut que mon diaporama se réveille. Voilà. Donc, ce travail, il s'inscrit en fait dans un projet qui date d'il y a quelques années. En fait, bah, en 2019, je n'y connaissais absolument rien au projet de Wikimedia, à part juste en tant que lectrice de Wikipédia de temps en temps. Mais on a commencé à me poser des questions en fait sur comment faire pour récupérer des données issues de Wikipédia. Et donc, c'est un peu par hasard que j'ai découvert les projets Wikimedia et en particulier Wikidata. Du coup, j'ai commencé à travailler là-dessus dans l'idée de montrer en fait qu'on pouvait utiliser ces données-là pour la recherche. Et donc, de fil en aiguille, en fait, il y a des besoins techniques qui ont été mis à jour en fait. Et du coup, on a développé le package Glitter grâce notamment à une presta de Maëlle Salmon qui a énormément, énormément travaillé sur le développement de ce package. Donc tout ça a quand même pris deux, trois petites années. Fin 2023, c'était la fin de la presta de Maëlle et du coup, avec un package, à mon sens, qui était prêt à être utilisé et surtout. C'était charge à moi ensuite de montrer que bah, ce package-là, on allait pouvoir l'utiliser pour en faire quelque chose en termes de recherche. Et donc, depuis fin 2023, j'ai travaillé à développer un exemple en recueillant des données Wikidata sur les inondations et en essayant de montrer en fait le potentiel de ces données-là pour une vraie problématique de recherche. Alors, pour replacer quand même tout ça dans un contexte un peu plus large, du coup, en tirant sur le petit fil Wikipédia, Wikidata, j'ai découvert le fabuleux monde du web sémantique et des linked open data. En gros, l'idée, c'est qu'il y a le web documentaire tel que nous, êtres humains, nous pouvons le consulter, par exemple à travers les pages Wikipédia. Et puis, enfin, de manière sous-jacente à ce monde visible, il devrait y avoir un réseau de données qui soit structuré de manière unique, selon une logique de construction qui serait commune à toutes, et selon des silos de données qui seraient interconnectés entre eux. Donc c'est un peu en lien avec le principe des données FAIR. Et donc l'idée aussi, ce serait que ces données, en se basant sur des technologies du web, puissent être utilisées facilement, notamment pour la machine, par les machines, pardon, pour réussir à trouver des informations et les enrichir dans un sens sémantique, en fait. Toute cette analyse-là est quand même assez compliquée par le fait qu'il y a la vision un peu idéale du web sémantique, où ça a l'air très très intéressant, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui relève de la théorie et qu'est-ce qui relève de la réalisation concrète. Et en fait, c'est un peu ce qui fait la distinction entre ce qu'on appelle le web sémantique, qui est la théorie et la vision idéale de ce que devraient être ces données du web, et les linked open data, qui sont bah, la réalisation concrète accessible à ce jour. Donc Wikidata est une des réalisations des linked open data. Les linked open data, elles s'accompagnent aussi d'une formalisation un peu technique, puisque l'idée, c'est de dire bah, tous les objets qu'on veut renseigner vont être identifiés par des URI, donc des Universal Resource Identifiers, pardon, qui peuvent être en l'occurrence des URL, donc des pages web. Donc les objets en question, ça peut être n'importe quel objet de la vie culturelle, un objet physique comme une ville, un bâtiment, ce genre de choses. Bref, tout sujet, tout objet, même les concepts, en fait, peuvent être comme ça matérialisés par un identifiant d'objet. Ensuite, ces objets-là, ils vont être décrits en fait à travers un modèle de données qui correspond à un modèle de données RDF. En gros, l'idée, c'est de dire on va décrire toutes les connaissances sous forme de triplés. Alors, des triplés du genre sujet, verbe, complément ou sujet, prédicat, objet. Par exemple, Victor Hugo est né à Besançon, c'est un exemple de triplé. Et du coup, pour réussir à mettre toutes les connaissances sous cette forme-là, il nous faut des ontologies, c'est-à-dire en gros des vocabulaires et des règles en fait pour réussir à raisonner sur les données. Par exemple, Michel est le père de Jean et Jean est le père de Gustave. Donc Michel est le grand-père de Gustave. Là, c'est un exemple en fait de raisonnement ontologique qui permet de faire sens en fait des triplés de données. Ensuite, pour accéder à ces données, il va y avoir ce qu'on appelle des endpoints, qui sont du coup des portes d'entrée sur les silos de données. Et pour réussir à recueillir ces données, eh bien, on va avoir recours à un langage qui s'appelle Sparkle. Et Sparkle, en fait, c'est un langage de requête. Donc, Sparkle, ça ressemble à SQL, sauf que du coup, ça s'applique à des graphes de connaissances. Donc, il y a quelques nuances. Mais du coup, vous avez un petit exemple en bas à droite de à quoi ça ressemble une requête Sparkle. Donc, moi, enfin, je suis aujourd'hui et depuis toujours, je me suis intéressée à ces sujets de linked open data vraiment du point de vue de l'utilisation de la donnée Et du coup, en termes techniques, dans toute cette colonne de techniques, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le langage de requête Sparkle. Et du coup, le package Glitter, son objectif, c'est vraiment de promouvoir l'usage des Linked Open Data et de Wikidata, du coup, en facilitant l'écriture de requêtes Sparkle, en facilitant l'envoi de ces requêtes et en favorisant, du coup, l'analyse et la valorisation ultérieure des données. Bon, alors moi, je suis R addict, du coup, tout ça, c'est dans R. Et du coup, l'idée, c'est de dire, bon, bah, Sparkle ne sert que à requêter des Sparkle Endpoints. Et du coup, bah, ça nuit un peu à son utilisation parce que bah, on peut y avoir des gens qui s'intéressent à la donnée et des données plutôt tabulaires, enfin des données dans des formats vraiment différents. Et du coup, on n'a pas forcément l'envie ni la motivation d'apprendre à utiliser ce nouveau langage. Du coup, Glitter se veut un peu un domain-specific language, c'est-à-dire l'idée, c'est de dire si vous savez écrire du R et travailler avec des données la plupart du temps tabulaires sous R, et ben vous saurez prendre en main plus facilement Glitter pour pouvoir interroger des Sparkle endpoints. Au-delà du vraiment de l'apprentissage de la, de, du langage Sparkle, une des difficultés qu'on a avec les Linked Open Data, c'est que, ben, en fait, de manière habituelle, on travaille beaucoup avec des données sous format tabulaire. Et en fait, du coup, quand on travaille avec les graphes de données des Linked Open Data, eh ben, il faut réussir à repenser en fait, les opérations qu'on fait et à repenser ces opérations en transcrivant en fait, les opérations qu'on va faire sur un graphe à leur correspondance sur un tableau. L'autre difficulté, c'est que bah, en fait, ces données, elles ne sont pas forcément hyper visibles directement. Ce qu'on appréhende directement, nous, en tant qu'êtres humains, c'est le web documentaire. Je ne peux pas vous montrer directement les données des Linked Open Data, sauf éventuellement avec Wikidata. Et donc, une autre difficulté inhérente à ces graphes de données, c'est que en fait, les métadonnées associées à ces données, elles sont en quelque sorte directement intégrées aux données. C'est-à-dire que si je veux récupérer, par exemple, toutes les données relatives aux inondations sur Wikidata, et ben, avant de lancer ma requête pour récupérer toutes ces données, j'ai aucune idée en fait, de la dimension de cette requête, de combien d'objets je vais récupérer, de la complétude en fait du jeu de données que je vais récupérer, etc. Là où si c'était simplement un tableau de données téléchargeable, et ben j'aurais une idée de combien de lignes il fait, combien de mégas, etc. Alors, donc ça c'était les difficultés en théorie. Maintenant, je rentre un peu plus dans la pratique en vous montrant un exemple de requête avec glitter et sans glitter. Donc à gauche, c'est sans glitter. C'est comment on fait pour lancer une requête qui récupère toutes les inondations sur Wikidata depuis R. Donc avant glitter, pour faire ça, on écrivait une requête comme bah, une longue chaîne de caractères qui contenait du Sparkle. Et là, il y avait un client qui s'appelait Wikidata Query Service R qui permettait d'envoyer cette requête au Wikidata Sparkle Endpoint. Et donc, bon, on pouvait du coup directement faire des requêtes depuis R, les envoyer et récupérer les résultats en tant que tableau. Donc ça, c'était avant. Donc à droite, maintenant, c'est avec Glitter. Donc l'idée, c'est que les deux sont exactement équivalents. Mais donc avec Glitter, on va avoir une syntaxe qui est beaucoup plus proche de. C'est beaucoup plus proche de R, et notamment, vous reconnaîtrez peut-être les logiques Tidyverse, DeepLayer, etc. Donc l'idée, c'est de dire on initialise une requête, on ajoute le triplet sur lequel on veut faire la requête. Donc là, mon triplet, c'est un objet qui s'appellera Flood, est une instance de. Ça, c'est la définition d'une inondation sur Wikidata. Je reviendrai un peu après à comment on fait déjà rien que pour trouver ce premier triplet. Une fois que j'ai fait ça, je lui dis, ben, j'aimerais bien quand même, plutôt que d'avoir juste l'identifiant de l'inondation, avoir une étiquette qui me permet de comprendre comme ça à peu près de quoi on parle. Et puis là, je lui dis que je vais prendre que les 10 premiers résultats, parce que là, c'est vraiment juste une requête pour illustrer le genre de résultats qu'on a. Une fois que j'ai conçu ma requête, je vais lui envoyer avec une fonction qui s'appelle SPQ Perform. Donc là, vous voyez, toutes les fonctions de Glitter sont reconnaissables parce qu'elles ont le petit préfixe SPQ underscore. Et donc là, vous voyez du coup le résultat qui est envoyé par cette requête-là. Donc cette requête, elle est bien allée me chercher différents objets qui correspondent à la définition de flood et elle me les a étiquetés. Donc là, j'ai les identifiants uniques qui ne sont pas forcément très très parlants comme ça. Et ici, l'étiquette qui me dit de quoi on parle. Alors, je vous disais, déjà rien que ça, savoir que pour récupérer les inondations, il faut faire point d'interrogation flood WDT 2.P31 WDQ8068, ce n'est pas forcément très instinctif. Et du coup, déjà pour en arriver là, un chemin classique, et en tout cas, moi c'est comme ça que je faisais et que je fais encore, c'est d'aller tout simplement naviguer sur Wikipédia et Wikidata, de trouver un exemple d'objet qui m'intéresse et puis de voir un peu quelles sont les propriétés qui sont renseignées pour cet objet-là. Donc là, je vous ai mis en exemple la page de l'inondation de Vaison-la-Romaine en 92. Et donc, pour cette instance-là d'inondation, j'ai un certain nombre de choses, par exemple dans quel pays ça a eu lieu, les coordonnées géographiques, et voilà. Et oui, et ici, par exemple, le lien vers l'article Wikipédia associé. Donc voilà, en naviguant comme ça sur Wikidata de proche en proche, je peux réussir à avoir un certain nombre de propriétés qui potentiellement peuvent me donner des informations intéressantes sur mon objet d'étude. Et ensuite, si je veux explorer de manière un peu plus systématique, en fait, Wikidata propose en lien avec son Sparkle Endpoint, une petite interface où on peut lancer des requêtes. Et en fait, Wikidata a fait tout un tas d'efforts pédagogiques autour de ça, notamment en fournissant tout un tas d'exemples qu'on peut adapter en fait, à ce qu'on veut faire. Et là, j'ai vu, alors ça c'est tout nouveau, qu'ils proposent maintenant un constructeur de requêtes qui peut aider à formuler un certain nombre de requêtes sur Wikidata. Bon, alors là, je suis un peu en train de faire la pub pour la concurrence, si j'ose dire, parce que si vous arrivez très bien à faire vos Sparkle, faire vos requêtes Sparkle par ici, vous n'aurez plus besoin de Glitter. Mais en tout cas, pour une première orientation, c'est pas mal. Et en toute honnêteté, moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire. Enfin, c'est grâce à Wikidata que j'ai appris à faire des requêtes Sparkle. Alors, je vous avais montré une première requête toute simple où on allait rechercher un certain nombre d'objets. Regarde quelle heure il est, j'ai déjà plus beaucoup de temps. On allait chercher un certain nombre d'objets qui étaient soit des instances de Flood, soit des instances d'une sous-classe de Flood. Donc là, je vous remontre, en fait, je vais vous montrer étape par étape comment je peux enrichir en fait, cette requête. Donc là, j'ai une première étape. Je ne vais pas faire cette requête telle que là pour l'instant, je vais me contenter en fait, de renvoyer le nombre de lignes que me renverrait cette requête si je l'envoyais telle qu'elle est. Donc là, si je lui demande toutes les inondations qui sont renseignées sur Wikidata, donc inondations ou instances de sous-classes d'inondation, j'ai 849 items qui me sont renvoyés. Ensuite, j'aimerais bien avoir des coordonnées géographiques associées à ces inondations. Donc, je vais incrémenter en fait ma requête en rajoutant un deuxième triplet en fait ici, en lui disant en fait je veux aussi avoir flood qui a pour coordonnées donc une nouvelle variable que je vais appeler point d'interrogation coord. Donc, quand je fais ça, j'ai plus que 136 lignes parce que par défaut en fait si tout n'est pas renseigné, Wikidata va enlever en fait les lignes où je n'ai pas les coordonnées. Donc pour 136, ça fait quand même une grosse perte par rapport aux inondations que j'avais de base. Donc, je vais utiliser un autre petit paramètre qui lui dit que le renseignement de cette nouvelle variable coord n'est pas requis. Et du coup, quand je lui précise ça, je récupère 849 lignes, donc un peu plus que tout à l'heure, ce qui veut dire qu'il y a certaines inondations qui ont plusieurs jeux de coordonnées renseignés. Ensuite, j'aimerais bien, pour chacune de ces inondations, récupérer le pays dans lequel elle a eu lieu. Voilà, donc je passe à 980 lignes parce que certaines inondations ont lieu dans plusieurs pays à la fois. Ensuite, pour celles qui n'ont pas de coordonnées, notamment, j'aimerais bien récupérer une localisation. Alors, la localisation, ça peut un peu tout et rien dire, c'est-à-dire que on peut dire cette inondation a eu lieu à Lyon, ou cette inondation a eu lieu en Afrique, ou cette inondation a eu lieu sur la planète Terre, ou un truc beaucoup plus précis. Enfin, le degré de précision de cette localisation peut être très très varié, mais ça me permet quand même de préciser un peu de quoi je parle en termes d'événements. Donc là, je passe à 1209 lignes, et puis je rajoute le nombre de morts en fait liés à l'événement, qui s'appelle Death Toll ici. Je passe à encore plus de lignes. Et puis en fait, je vais aussi rajouter tous les articles Wikipédia qui parlent de ces événements. Donc là, je passe direct à 8815 lignes, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de pages dans plusieurs langues différentes qui vont parler d'un même événement. Bon, si j'essaye de. Alors, je crois que je m'arrête là. Ah non, et oui, la dernière ligne, là, c'est pour lui dire, je ne veux pas juste les identifiants, je veux un truc un peu plus compréhensible pour l'inondation, le pays et la localisation, de manière à avoir un tableau qui est directement compréhensible par moi, être humain. Et si j'essaye de lancer cette requête telle que, bon, là, pour le PowerPoint, je me suis limitée à 200 lignes. Mais la requête avec 8815 lignes, elle aboutirait sans aucun problème. Et donc voilà ce que je récupère. Donc j'ai enlevé, bon, j'ai juste sélectionné l'étiquette de flood, l'étiquette du pays, les coordonnées et puis le nom de la localisation. Donc là, vous voyez que les coordonnées sont souvent non renseignées, la localisation est souvent non renseignée. Et la localisation est parfois assez imprécise. Par exemple, pour certains, c'est des inondations qui ont lieu en Europe ou des inondations qui ont lieu sur la mer Méditerranée. Alors, je ne sais pas comment c'est possible d'avoir une inondation sur la mer Méditerranée. voilà, donc avec des degrés de précision vraiment très divers. Alors, ça, c'est la requête telle que je vous ai montrée. En vrai, moi, ma requête idéale, ça ressemblait plutôt à ça. Alors, je vous mets un peu des petites couleurs un peu de partout pour vous expliquer de quoi il retourne. L'idée, c'est de dire, je vais récupérer un certain nombre de renseignements sur les dates de début, de fin ou la date d'occurrence en fait de l'inondation. Je vais récupérer un certain nombre de choses sur les coordonnées, la localisation, en espérant pouvoir récupérer des coordonnées plus ou moins précises pour cette inondation. Et je vais récupérer des attributs qui me permettent de caractériser les pays où ça a eu lieu. Alors, du coup, pour les pays, j'ai récupéré leur index de développement humain, l'air, la population, et j'ai récupéré les langues qui y sont utilisées, parce que ça va me servir, en fait, à discuter le contenu des articles Wikipédia qui sont associés. Donc, avec ce graphe de connaissances quand même assez étendu que je voudrais récupérer, et ben, en fait, si j'essaye de lancer ça tel que sur le Wikidata Sparkle Endpoint, ça n'aboutit pas. Puisque il y a un temps de réponse limité en fait, sur le serveur, qui fait que si vous passez par Wikidata Query Service, si votre requête met plus de 60 secondes à aboutir, ça ne passera pas. Et pour un client comme Glitter, il y a une plus grande tolérance puisqu'on peut aller jusqu'à 300 secondes. Mais bon, il vient quand même un moment où les requêtes sont trop volumineuses et où, du coup, il faut se poser un peu des questions sur comment on fait pour réussir à interroger l'ensemble du sous-graphe que nous, on souhaite, sans aller au-delà des paramètres timeout. Donc, un exemple que je vous fais ici, c'est de dire, ben, en fait, je vais interroger une partie de mon graphe, récupérer tous les identifiants de pays associés à une inondation. Et du coup, pour chacun de ces pays, un à un, je vais récupérer les attributs comme la population, l'air et l'indice de développement humain, pardon. Et donc là, je vous montre ici comment faire. J'ai écrit en gros une petite fonction dont le paramètre d'entrée va être l'identifiant du pays. Et donc, pour chacun de ces identifiants, je vais faire une toute petite requête, puisqu'elle correspond que à un pays. Et donc cette requête me renvoie juste les données qui correspondent au pays en question. Donc, en gros, une fois que j'ai fait ça, je peux faire tourner en boucle sur l'ensemble des pays que j'avais trouvés dans un premier temps et par des jointures, réussir à compléter mes tableaux de données. Donc, j'ai fait ça pour ça. J'ai fait ça aussi pour les langues utilisées ou officielles des différents pays représentés dans mon jeu de données. Ici, en fait, je fais juste un petit pas en arrière pour dire que vous avez peut-être remarqué, si vous êtes utilisateur de R, que le package Glitter s'inscrit vraiment dans les principes du tidyverse, dans le sens où on utilise le pipe, on utilise les préfixes, et puis on vise vraiment à la facilité d'utilisation à travers des incréments, en fait, dans notre requête. Et du coup, il y a en plus des inspirations dans les noms de fonctions, notamment les noms de fonctions de dplyr, puisque les opérations de manipulation des tableaux, on les a retranscrits en manipulation des graphes. Donc toutes ces fonctions-là, c'est vraiment là que la magie de Maël Salmon est intervenue, parce que ce n'était pas une mince affaire en termes de développement. Et donc, je me dépêche un petit peu. Donc, jusqu'à ce que je développe mon exemple sur les inondations, quand j'essayais de vendre Glitter, j'expliquais que c'était vachement bien parce qu'on allait pouvoir utiliser les LOD et exploiter en fait la richesse thématique des données Wikidata notamment, par exemple pour construire des jeux de données pédagogiques. Ou pour compléter des jeux de données institutionnels. Alors pourquoi je m'arrêtais là? C'était que, en fait, bah, en disant ça, je ne me mouillais pas trop sur d'éventuels problèmes d'incomplétude des Wikidata en tant que données générées par les utilisateurs. En disant qu'on pouvait l'utiliser pour des jeux de données pédagogiques, et ben, en fait, il n'y avait pas tellement d'enjeux. Si les données n'étaient pas complètes, ce n'était pas bien grave. En disant on va l'utiliser pour compléter des jeux de données institutionnels, ce n'était pas bien grave non plus parce que le recensement de base d'un objet d'intérêt était à la charge du jeu de données institutionnel et pas à la charge des utilisateurs de Wikidata. Du coup, par exemple, on pouvait étudier des données botaniques à partir d'un autre jeu de données et puis utiliser Wikidata pour associer à chacune des espèces une photo et puis un nom vernaculaire, par exemple. Voilà, donc ça, c'était avant. Donc maintenant, je me mouille un peu plus, puisque on a testé en fait l'utilisation des Linked Open Data et notamment Wikidata pour recueillir et compléter des données, mais vraiment dans un but de recherche. Et donc, on a développé justement cet exemple sur les inondations en comparant avec un jeu de données institutionnel qui est le Dartmouth Flood Observatory. Et donc, en fait, ce jeu de données, c'est un jeu de données qui est supposément moins biaisé parce que il va recenser des inondations à partir de données satellitaires et donc détecter des endroits où potentiellement il y a une inondation et après confirmer par une analyse de corpus de presse si l'inondation a vraiment un impact humain ou pas. Donc bon, cette deuxième confirmation est quand même bah, quelque part peut-être aussi biaisée, et en tout cas elle se fait à dire d'experts, donc au prix quand même d'un temps expert certain. Et du coup, bon, ce jeu de données, il est quand même très riche parce qu'il porte sur tous les événements d'inondation qui ont été recensés depuis les années 80. Mais du coup, on s'en sert en fait pour vraiment discuter pourquoi un événement d'inondation, il apparaît ou pas dans Wikidata, quels sont les facteurs qui font qu'il apparaît, et puis pourquoi et comment il est traité dans les articles Wikipédia associés. Et en fait, recourir en fait à Wikipédia, et ben, en fait, c'est exploiter la richesse en fait des Wikidata pleinement. Parce que bah, par rapport à Dartmouth Flood Observatory, par exemple, eh ben, on a quand même une idée un peu explicite de pourquoi l'événement va être considéré significatif ou pas. Là où on avait juste un dire d'expert pour Dartmouth Flood Observatory. J'ai bientôt fini. Donc le résultat, en fait, il y a des choses qui sont attendues, hein, comme le fait de dire que bah, finalement, les événements d'inondation, ils vont être surreprésentés dans les Wikidata quand ils touchent des pays riches ou du degré de pénétration d'Internet, par exemple, et de Wikidata, Wikipédia est important. Donc là, vous avez les différentes classes d'index de développement humain. Vous avez le nombre d'inondations dans Dartmouth Flood Observatory en vert et le nombre d'événements d'inondations dans Wikidata en rose. Et vous avez un certain nombre d'événements qu'on arrive à replacer à la fois dans les deux bases de données. Donc on voit bien que la proportion d'événements est particulièrement importante dans les pays riches, entre guillemets. Mais ça ne va pas dépendre que de la richesse du pays, ça va un peu évidemment aussi dépendre en fait de l'impact en termes humains de l'événement. Par exemple, les événements qui causent beaucoup de morts sont beaucoup plus représentés dans Wikidata que dans Dartmouth Flood Observatory. Une des richesses aussi de travailler à la fois sur Wikidata et Wikipédia, c'est que on peut produire en fait une analyse des contenus Wikipédia comme on ferait d'une analyse de corpus. Donc ce qu'on a fait par la suite, c'est récupérer tous les articles, les scraper et puis les traduire de la langue dans laquelle ils étaient initialement vers l'anglais. Et puis on a travaillé sur tous ces textes pour essayer de. On les a découpés en morceaux et on leur a assigné en fait des thématiques. Enfin, assigné. On a retrouvé de quoi ça parlait, plus ou moins. Et en fait, il y a certains thèmes qui sont à peu près toujours abordés dans les articles, qui sont la narration de l'événement, c'est-à-dire la météo, il a beaucoup plu, ça a fait des dégâts, et les stratégies de secours en fait, qui ont été mises en place. Donc là, c'est vraiment juste la narration de l'événement, étape par étape, qui est à peu près systématiquement présente dans tous les articles portant sur les inondations. Et puis, de temps en temps, on va trouver des sujets un peu plus complexes qui sont traités, dans le sens où ils s'intéressent davantage à la recherche des causes, par exemple en termes d'anticipation, de gestion de la crise, et puis aussi des causes hydrologiques, avec par exemple des discussions de pourquoi tel barrage à tel endroit a joué sur l'occurrence de cette inondation ou pas. C'est ma dernière diapo. J'ai bien presque fini. Je ne suis pas si en retard que ça. Et du coup, une fois qu'on avait tout ça, en fait, on a essayé de comprendre en fait pourquoi ces sujets un peu plus complexes, ils allaient être abordés dans certains articles et pas dans d'autres. Et donc, on a essayé de relier en fait ça aux autres caractéristiques, soit de l'événement lui-même, soit aux caractéristiques de l'article. Donc là, c'est le résultat d'une random forest pour caractériser ça, qui nous dit que en fait, donc les sujets complexes, hein, juste pour rappeler, c'est anticipation, gouvernance, hydrologie. En fait, ils vont être surtout abordés quand les articles sont plus longs, c'est le truc qui joue le plus. Ils vont être de moins en moins abordés au cours du temps, mais alors après ça, c'est vraiment la particularité des événements un peu historiques, parce que là, vous voyez que ça remonte au Moyen-Âge. Et en fait, sur les événements plus vieux, en fait, il peut y avoir une prise de recul un petit peu plus importante. Et puis, peut-être aussi des informations sur la météo et les dommages vraiment concrets qui est plus difficile à trouver. Ensuite, la discussion de ces sujets un peu complexes, un peu politiques, elle est aussi très fortement liée à l'indice de développement humain du pays dans lequel l'événement a eu lieu. Et plus il y a de morts et moins c'est important cette discussion, en fait, parce que je pense plus il y a de pertes humaines et plus le récit en fait qui est fait de l'événement, de son développement et puis des secours, plus ça prend de la place. Bon, je ne vous fais pas toutes ces trois-là qui sont plus difficiles à expliquer, mais aussi un truc qui est intéressant, c'est de voir que en fait, on a des récits d'événements qui sont soit dans la langue locale, soit dans une langue étrangère. Et en fait, ça va changer la façon dont le récit se fait. Et en fait, dans les récits qui sont locaux, on a beaucoup moins cette prise de recul, en fait, ou cette prise de position sur les causes éventuelles de l'inondation. Et voilà. Et du coup, j'ai des annexes, mais je vais passer ça. Je voulais juste, du coup, finir vraiment sur dire que, en fait, on a réussi, à mon sens, à vraiment utiliser Wikidata pour étudier un phénomène, mais en prenant parti en fait vraiment du fait que ce n'est pas un jeu de données complètement non biaisé, mais quelque part les biais éventuels de ces données sont en soi une information, et donc on va réussir à en tirer parti, notamment en les associant à des données textuelles dans les articles Wikipédia qui sont associés. J'ai fini.